Voilà, bonjour. Hola. Voilà, gloire au Seigneur. J'aurais pu, ce matin, bien sûr, prendre un message que j'ai prêché à Draguignan. Paul avait pour habitude de prêcher la même chose dans toutes les églises. Donc je pense qu'il devait reprendre certains messages avec des bases fondamentales, en effet, qui régissent la vie normale d'un chrétien, la vie de l'église, mais je ne l'ai pas fait, j'ai prié le Seigneur. Pour que le Seigneur m'accorde encore de donner une parole dite à propos. Une parole pour l'Église, en effet, de Sainte-Agne. Parce que chaque Église est particulière, elle a une identité, une personnalité, une sensibilité personnelle. Alors, une parole dans une Église n'est pas forcément aussi bonne pour une autre. Ou du moins, répondra-t-elle peut-être pas aussi favorablement dans une Église que dans une autre. Mais il n'en demeure pas moins que je me suis réveillé ce matin dans le livre de l'Ecclésiaste. Et une pensée s'est imposée à moi, dans mon cœur, que j'aimerais donc partager avec vous. On va aller dans le livre de l'Ecclésiaste, bien sûr. Ecclésiaste chapitre 8. Vous connaissez bien sûr l'auteur. C'est Paul. Ah bon, quand même. Non, je pensais que vous n'aviez pas entendu. C'est qui ? Voilà, il n'y a que ceux qui disent rien qui se trompent jamais. L'Ecclésiaste, chapitre 8. Alléluia. On y va ? Verset 1er. Qui est comme le sage ? Et qui connaît l'explication des choses ? La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. Je te dis, observe les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui, et ne persiste pas dans une chose mauvaise, car il peut faire tout ce qui lui plaît. Parce que la parole du roi est puissante, et qui lui dira, que fais-tu ? Celui qui observe les commandements ne connaît point de choses mauvaises, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Qu'il y a pour toute chose un temps et un jugement, quand le malheur accable l'homme. Mais il ne sait point ce qui arrivera, et qui lui dira comment cela arrivera ? L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. J'ai vu tout cela et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Alors j'ai vu des méchants recevoir la sépulture et entrer dans leur repos, et ceux qui avaient agi avec droiture s'en aller loin du lieu saint et être oubliés dans la ville. C'est encore là une vanité. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant, et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. Il est une vanité qui a lieu sur la terre. C'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants, et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Je dis que c'est encore là une vanité. J'ai donc loué la joie, parce qu'il n'y a de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger et à boire et à se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de son travail, pendant les jours de sa vie, de vie que Dieu lui donne sous le soleil. Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à considérer les choses qui se passent sur la terre, car les yeux de l'homme ne goûtent le sommeil ni jour ni nuit. J'ai vu toute l'œuvre de Dieu. J'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas, et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver. Amen. On sait que ce qui ressort, bien sûr, chez Salomon, c'est tous les efforts que peut produire un homme pour connaître un peu les choses. Et ce roi Salomon, en effet, a fait toutes sortes de choses, Et il en a tiré, bien sûr, des instructions. Et ce qui ressort, bien sûr, dans tous les chapitres de l'Ecclésiaste, c'est qu'il dira qu'il a cherché à faire tout ce qui se fait sous le soleil. Il en avait les moyens. Il en avait le pouvoir. Et donc, il s'est appliqué à faire tout ce qui peut se faire sous le soleil. Et il en tirera ceci, vanité, des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. Littéralement, tout est vide. Pourtant, une vie remplie comme la sienne, à faire tout ce qui se fait sous le soleil, il a été pris par des occupations, et Dieu sait que si on veut faire tout ce qu'on peut faire sous le soleil, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, peut-être beaucoup d'argent, mais il en ressort que vanité des vanités, il y a comme un vide. On a beau à faire, on a beau encore à faire, encore donner toutes sortes d'efforts, mais voilà que le résultat est celui-ci, tout est vanité. Des vanités, il dit pas, ça sert à rien. Mais le résultat, l'expérience qu'il en conclut, la synthèse qu'il fait, tout est vanité, des vanités, poursuite du vent. Alors, il est une chose aussi qui ressort dans ces différents chapitres et qui en terminera, bien sûr, au chapitre 12 de son livre. Il dira que voilà ce que tout homme doit faire, c'est craindre Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu ramènera toutes les actions des hommes en jugement. Alors, c'est bien sûr, profite de la vie, mais sache une chose, c'est qu'à la fin, Dieu redemandera toute chose, et toute chose passera en jugement. Et il est évident que les expériences que Salomon a faites, bien sûr, sur la terre, sous le soleil, montrera une certaine sagesse. Et vous savez comme moi que la sagesse de Salomon est reprise dans le Nouveau Testament. On se souviendra aussi d'une certaine époque où Salomon s'est retrouvé dans une certaine situation. Je ne sais pas comment on aurait pu faire. Rappelez-vous ces deux femmes qui avaient eu un enfant et qui se sont couchées. Et la Bible dit qu'il y en a une qui s'est couchée sur un enfant et l'enfant est mort, étouffé. Alors il est de toute évidence que le matin au réveil, il y avait un enfant en moins et chacune des deux mères, en effet, voulait garder l'enfant qui restait. Et ça a fait une dispute, une bagarre. Alors on a amené devant Salomon et de donner une sentence, de dire quelque chose. Et on sait de quelle manière, en effet, Salomon a répondu. Puisqu'on ne sait pas qui c'est la mère et que chacun veut l'enfant, qu'il n'y en a pas une qui reconnaît que ce qui est mort est le sien, alors Salomon va dire « Donnez-moi l'enfant ». On va prendre l'enfant et puis on va le couper en deux, comme ça vous aurez un morceau chacun. On peut se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que cette sagesse ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous auriez dit ça, vous ? Quel drôle de sagesse, vouloir prendre l'enfant, on va le couper en deux ? Mais on sait comment la chose s'est faite, en effet. C'est là on voit vraiment la sagesse de Salomon. Bien sûr que Salomon n'aurait pas coupé l'enfant en deux, vous l'avez compris, puisque le reste de l'histoire, heureusement que Dieu nous la donne, la finalité de la chose pour qu'on comprenne et qu'on ne torde pas le sens. L'enfant, quand la mère, la vraie mère, en effet, a vu qu'il allait être coupé en deux, l'enfant, elle a préféré le perdre pour sauver sa vie. Et c'est ainsi que la mère a réagi, la vraie mère. Elle a dit, non, ne fais pas ça, Salomon, ne fais pas ça. Ben vas-y, donne l'enfant à cette femme. Et là, Salomon a compris, il a dit, bon, maintenant vous prenez l'enfant, vous lui donnez à elle. Voilà l'amour d'une mère. Elle préfère le perdre pour sauver sa vie. La sagesse de Salomon. Malgré, bien évidemment, la sagesse de Salomon dans les expériences qu'il a faites, est-ce que ça veut dire pour autant que c'était un homme vraiment sage ? Il le dit lui-même dans ce chapitre 8, même le sage, il ne comprendrait pas ce qui se fait sous le soleil. Pourtant, il s'était forcé à le faire. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, ce n'est pas faute d'avoir essayé de comprendre les choses, mais il sent bien que c'est limité. Alors j'aimerais pouvoir cet après-midi ensemble partager avec vous, bien sûr, la compréhension, le fait de l'importance de la sagesse, la vraie sagesse. Cette sagesse qui ne vient pas des hommes, qui ne résulte pas des expériences simplement de la vie, mais d'avoir une parole dite à propos au moment opportun, une attitude qui correspond au moment opportun. Je me permets de vous raconter une petite expérience Vous le savez, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, en tant qu'aumônier à la prison de Draguignan, bien qu'elle soit fermée, parce que depuis le 15 juin 2010, vous savez que le Var a été inondé, nous avons été inondés, la prison a eu une vague de 3 mètres qui est venue, et tout a submergé, la prison était sous l'eau. Et depuis, bien sûr, il n'y a plus de prisonniers, ils ont été à droite, à gauche. Mais lorsque j'étais encore et que je visitais certains détenus, un jour je me suis retrouvé dans la cage d'escalier, et un homme m'a dit « T'es qui, toi ?» Ah, je lui dis « Je suis l'aumônier. » Il me dit « C'est quoi un aumônier ?» Alors je lui réponds « Ben, je parle de la foi en Dieu, je parle de la crainte de Dieu. » Et il a un moment de réflexion et de silence, puis il me pose une question. Et il me dit « Ah, dis-moi, il me dit, qu'est-ce que tu penses de la caricature qu'ils nous ont fait de Mahomet ?» Question délicate. Mahomet, c'est pas n'importe qui pour les musulmans. Alors, un moment de réflexion, et je lui dis, écoute, je vais te poser moi aussi une question. Et je lui dis, dis-moi, qui est plus important, Mahomet ou Allah? Il me répond, Allah. Et je dis, ben, occupe-toi d'Allah et laisse tomber Mahomet. Il me dit, oh, t'es pas bête, toi. Et avoir une parole dite à propos, ne pas rentrer en effet dans le jeu qui pourrait faire envenimer la conversation. Cette sagesse qu'on retrouve par exemple dans Jésus, dans les différentes conversations qu'il y a avec les gens qui essayent de lui tendre un piège. Voyez, comme on a pris cette femme en flagrant délit d'adultère, on essaye de prendre piège Jésus. Jésus, il retombe toujours, j'allais dire sur ses pattes, excusez-moi l'expression. Ou toutes les fois où Jésus a su reposer une question à une question qui lui était posée, renvoyer l'appareil, pour mettre finalement la confusion chez ceux qui essayaient de le tendre un piège pour le prendre à défaut. Voyez cette sagesse dont nous avons besoin. La parole de Dieu nous parle dans le Nouveau Testament, en effet, que le monde avec sa sagesse n'a pas trouvé Dieu. Mais Dieu, dans sa sagesse, a voulu se révéler aux hommes par la folie de la prédication de la croix. La sagesse de Dieu est plus grande que celle de ce monde, ou j'allais dire, la folie de Dieu est plus forte que la sagesse du monde. Et j'aimerais vous dire que tous ceux qui croient en Dieu, ce sont des hommes sages. On n'a pas l'habitude d'entendre ça, hein. De dire, ouais, les croyants, ils sont pas si bien que ça parce que il leur faut quelque chose pour croire, pour exister. C'est pas ça du tout, hein. Nous nous sentons pas diminués parce que nous croyons en Dieu, nous nous sentons pas diminués parce qu'en effet nous plaçons notre confiance en Dieu. Moi je dis toujours, pour être un chrétien, il faut être un homme, un vrai homme. Pour faire face à une société qui se veut en effet être grande, sage, et qui rejette Dieu et les conseils de Dieu. Et qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Se vantant d'être sage, il est devenu fou. La folie des hommes les pousse à des actes en effet de folie. Et elle nous revient comme une vague, comme un tsunami. Elle nous revient comme une vague dévastatrice. À combien on a besoin, en effet, que la voix de Dieu, la voix de la sagesse, la voix de la parole de Dieu, la voix de Dieu se fasse entendre pour que les gens réalisent que la vraie sagesse, c'est pas celle qui vient des hommes, mais c'est celle qui vient de Dieu. Dans ce chapitre 8 d'Ecclésiaste, il nous est parlé aussi de l'importance d'obéir aux autorités. Là encore, c'est un cas dans notre société qui de plus en plus se veut en effet indépendante, où chacun veut prôner sa liberté et au nom de la liberté vouloir faire des choses qui ne sont ni plus ni moins que des conséquences de leurs actes, de leurs sentiments, de leurs émotions. Les hommes sont pris par eux-mêmes et se vantant de vouloir être libres, ils accomplissent toutes sortes de choses de folie, comme vous le savez aujourd'hui dans notre société. L'importance d'obéir aux autorités. Si le monde dans lequel je vis, qui gît sous la puissance du malin, est poussé à se soustraire à toute autorité établie, le peuple de Dieu, le croyant, a compris que sa force, elle se trouve dans l'obéissance. C'est paradoxal. Mais nous avons réalisé pourquoi. Parce que Dieu nous a donné et nous fait part de sa sagesse. Parce que nous avons réalisé en effet que la parole de Dieu, l'autorité divine, est une bénédiction pour quiconque s'y place. Je pense bien sûr à Jésus, comme je l'ai encore entendu tout à l'heure, lorsque Jésus dira ceci, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ou encore, lorsque Jésus dira ceci, « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Et nous avons compris dans cette pièce du joug qu'il y a là, bien sûr, l'image de l'obéissance, l'image de la soumission, d'accepter en effet de prendre sur soi l'autorité divine, comme dira littéralement ce texte, « Mettez-vous à mon école ». Je pense aussi, bien sûr, à Jacques, qui enseigne dans son épître qu'il dira ceci, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Et quelquefois, on voudrait ne pas se soumettre à Dieu, et on veut résister au diable, mais on ne peut pas lui résister. On a compris que la vraie sagesse pour nous, c'est de savoir considérer la parole de Dieu comme ayant une parole d'autorité. Je ne parlerai pas autoritaire, mais une parole d'autorité, comme venant de celui qui, par sa parole, a tout créé. Tout à l'heure, pendant le moment de culte, je pensais bien sûr à cette grâce de Dieu qui nous demande en effet de considérer sa parole et d'accepter de nous soumettre et d'observer les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne te hâte pas, bien évidemment, de t'éloigner de lui, ne persiste pas dans une chose mauvaise, car il peut faire tout ce qui lui plaît. Dieu fait tout ce qui lui plaît. Il n'y a personne, ni rien qui pourra empêcher Dieu de faire ce qui lui plaît. Même si, quelque part, on a l'impression que les puissances démoniaques, les puissances des ténèbres veulent s'élever contre le plan de Dieu, il n'en vaudra pas mieux, en effet, que la parole de Dieu s'accomplira comme il l'a dit. Quelle folie de se vouloir s'opposer au plan divin. De toute manière, ce qui est écrit, c'est ce qui s'accomplira. Dieu est aux cieux, il fait ce qui lui plaît. Il peut faire comme il veut. Et vous le savez comme moi, il nous suffit de regarder autour de nous, n'est-il pas écrit dans l'Épître aux Romains, en effet dans le chapitre 1, que la puissance de Dieu, que les perfections invisibles de Dieu se voient comme un œil nu quand on le considère dans ses ouvrages. Quand on regarde autour de nous les constellations, quand on regarde la terre, quand on regarde la nature, quand on regarde l'infiniment grand, l'infiniment petit, ce que l'on peut percevoir de nos yeux, et Dieu l'a voulu, regarde ce qu'on peut connaître de Dieu. C'est-à-dire que tu peux connaître, c'est à la portée de tous. Et nous reconnaissons que la terre n'est pas le fruit d'un accident, d'un bing-bang, et même s'il existait, en effet, ce bing-bang, quelqu'un disait, des grands scientifiques disaient ceci, qu'en effet, il y a quand même quelqu'un qui a dû donner des ordres, des lois, pour que même après une explosion, tac, tout se met en place, avec des degrés, avec des inclinations, avec en effet, toutes sortes de protections, en effet, c'est extraordinaire. Des hasards comme ça, on en veut tous les jours. Nous croyons donc et nous reconnaissons que nous ne sommes pas atteints de folie, mais nous avons reçu cette parole de Dieu comme venant du Dieu vivant et vrai, créateur des cieux et de la terre. Nous reconnaissons qu'elle a du poids, la parole de Dieu. Nous croyons qu'elle a une puissance, la parole de Dieu. Les témoignages ne manquent pas autour de nous. Si ce n'est pas la création, c'est la créature que nous sommes. En effet, nous pouvons rendre témoignage de la puissance de Dieu, de la manière dont Dieu agit, de la manière dont Dieu accompagne sa parole, veillant sur sa parole pour l'accomplir. Et nous sommes étonnés quand on considère les prophéties bibliques, quand on considère la parole prophétique de Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, de voir avec quelle précision, comme papier à musique, les porter. Il y a un temps pour tout. Et l'homme saint sait qu'il y a un temps pour tout, qu'il y a un jugement qui viendra. C'est pourquoi nous prenons en considération, bien sûr, toute la parole de Dieu. Et nous croyons que celle-ci est pour l'homme, en effet, la sagesse divine qui peut le rendre sage. C'est Paul qui disait à ce jeune serviteur Timothée, « Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage. » Je crois que la sagesse du peuple de Dieu, la sagesse du croyant, quel qu'il soit, ce n'est pas le fait qu'il connaît des choses de la terre, mais c'est de savoir appliquer à son cœur la parole de Dieu, saint et sage. Vous vous souviendrez de ce que Jésus aussi a dit dans les évangiles. Je vais vous dire, moi, qui est semblable celui qui entend ma parole, qui la met en pratique. Il est semblable à un homme sage, prudent, qui a bâti sa maison sur le roc. Les vents ont soufflé, la mer s'est jetée contre elle, mais la maison n'est pas tombée. Hein. Elle a résisté. Celui qui entend ma parole, qui ne la met pas en pratique, est un homme insensé. C'est un homme qui va bâtir une maison sur du sable. Les vents ont soufflé, la mer s'est jetée contre elle et la maison s'écroule. C'est un manque de sagesse. Nous n'avons pas à avoir honte de prôner que nous croyons en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous n'avons pas honte de dire que la parole de Dieu, c'est cette parole que nous tenons en effet pour une parole véritable. Parce que la Bible, j'en ai pas honte. C'est la puissance de Dieu. Pour celui qui croit, bien évidemment, l'importance donc d'obéir aux autorités. Permettez-moi, venez avec moi dans le Nouveau Testament. Dans Romains 13, vous connaissez aussi ce texte. Romains chapitre 13. Et là, encore une fois, il parle de l'attitude des chrétiens envers les autorités. Vous avez des problèmes avec les autorités ? Des fois quand même, parce qu'ils ne sont pas toujours justes. Les autorités. Je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on a du mal à se soumettre aux autorités. C'est parce qu'elles font défaut. Et parfois, ceux qui prônent être ceux qui doivent faire respecter la justice, l'autorité, ne sont pas plus justes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le monde dans lequel on est a du mal à se soumettre à des autorités qui ne respectent pas eux-mêmes l'autorité. Alors, c'est difficile de se mettre notre confiance dans des gens, en effet, qui ne sont pas dignes. Et pourtant, l'autorité est là, et la parole de Dieu nous enseigne ceci dans Romains, donc, chapitre 13. Il dit au verset 1er que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, qu'il n'y ait point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement impliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et à César, ce qui est à César. C'est repris, bien sûr, dans les évangiles, alors qu'à un moment donné, les disciples, en effet, sont interpellés par les autorités, ceux qui récoltent les impôts, et leur diront ceci, dites-moi, votre maître, il paye les impôts ? Alors les disciples sont allés vers Jésus, et Jésus leur a dit, est-ce que les fils payent les impôts ? Les autorités, il fait non, ce sont les étrangers qui payent. Mais dit, pour que nous ne soyons pas en scandale aux hommes, va chercher dans la rivière, là il y a un poisson, puis tu prends, c'est un écu, je ne sais plus si c'est un écu, enfin c'est une pièce qui valait la taxe qu'il fallait pour deux. Donc il est venu, il l'a pris, puis il a dit, rendez à César ce qui est à César, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Quand on est croyant, quand on est converti, quand on appartient au Seigneur, c'est pas parce qu'on appartient à Dieu que nous sommes libres, qu'il faut nous soustraire aux autorités et avoir un mauvais témoignage par rapport aux autorités. Mais je crois que la Bible rend beau de dehors comme à l'intérieur. Et ce qui se fait dedans se voit dehors. Des fois, je rigole, je dis, il n'y a pas que Rambo qui est beau. Mais la Bible rend beau. Et je crois que c'est très important pour chacun d'entre nous, Dieu ce qu'il fait, il le fait dans notre cœur parce que c'est important. C'est de notre cœur que viennent les mauvaises pensées, c'est du dedans du cœur que viennent les mauvaises actions. Et c'est du cœur et dans le cœur que Dieu travaille le cœur des croyants. Nous n'avons pas un tête-à-tête avec Dieu, on a un cœur à cœur avec le Seigneur. Dieu ne se contente pas d'une superficialité, Dieu va dans les entrailles du cœur de l'homme. Dans notre intérieur, et vous le savez bien sûr comme moi, Il est évident, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque Jésus a répondu, en effet, qu'il fallait rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, en effet, ça veut dire que même Jésus lui-même a été un homme qui a été amené à être soumis aux autorités. Jésus, fils de Dieu, c'est ce que nous dira, bien sûr, la parole de Dieu. Il dira ceci, dans Hébreux 5, « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris, avec larmes et de prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Quoi de plus normal que celui qui nous enseigne et nous exhorte à être obéissant, qu'il le soit lui-même? Contrairement aux gens de ce monde, Jésus l'a été véritablement. Avant de donner un ordre, il a été celui qui pouvait dire « Regardez-moi ». Ou venez à moi. Parce que Jésus a été obéissant jusqu'à la mort. Nous disent les Écritures dans Philippiens 2, 5 à 8. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a pris comme. Il a paru, pardon, comme un vrai homme, et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort, bien sûr, de la croix. Amen. Et là, il nous est parlé, bien évidemment, de l'abaissement du Seigneur Jésus. Jésus s'est abaissé. On ne l'a pas abaissé. Il s'est abaissé. Dans le jardin de Gethsémané, vous le savez comme moi, il a dit lui-même, si j'avais voulu, j'aurais appelé une légion d'anges. Hein. Fini, hein? Mais Jésus s'est dépouillé lui-même. Il a accepté d'être considéré comme un moins que rien, dira Isaïe 53. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué aux souffrances, il n'avait rien pour nous plaire, parce qu'il a vécu comme un vrai homme. Peut-être que si nous étions au milieu, il se serait mis dans la foule, on ne saurait pas peut-être qui c'était Jésus. Parce qu'il n'a pas cherché d'être égal avec Dieu pour dire « Oh, c'est moi !» Non. Mais ce qui interpelle le cœur des croyants et ce que la parole de Dieu nous exhorte, c'est qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. Il s'est abaissé avant d'être souverainement élevé. Si Christ donc a appris, bien qu'il était le Fils, à être obéissant, à plus forte raison nous aussi, bien évidemment, et on connaît celui qui est son imitateur, l'apôtre Paul, qui a dit ceci, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Seigneur. » Et il dira ceci dans Philippiens 4, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Est-ce que ça l'a desservi d'être obéissant? Non. Est-ce que ça a été une cause d'abaissement pour l'apôtre Paul? Non. Mais à l'image de celui qui était son Seigneur et Sauveur, Paul s'est appliqué à imiter son Seigneur et s'est rendu compte que dans l'obéissance, dans la soumission, dans l'apprentissage, en effet, pour être un serviteur de Dieu, un disciple de Jésus, tu vas passer par la discipline qui est nécessaire. Non pas qu'elle est mauvaise, mais elle est nécessaire. Pourquoi ? Parce que dans cette obéissance, il y a une puissance. Et Paul pouvait dire, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Il faut le faire quand même. Il a appris du maître, il l'a mis en pratique, et il en a fait les expériences comme le Seigneur lui-même, qui, malgré qu'il a été amené au sacrifice, il a compté sur le secours de son Père, qui n'a pas hésité, bien sûr, à le ressusciter d'entre les morts. Et la Bible dit ceci, dans ce que nous avons lu tout à l'heure, lorsqu'il a été exaucé à cause de sa piété, il a appris. Jésus était un homme de piété. Et vous savez tous ce que c'est que la piété. C'est quoi la piété? Certains me diront, je fais ci, je fais ça, j'ai encore fait ci, j'ai encore fait ça. Est-ce que c'est ça la piété? La signification, bien sûr, de la piété, c'est cet attachement au Seigneur. Avoir de l'attachement au Seigneur. Et cet attachement, bien évidemment, n'est pas soumis à des règles, à des règlements intérieurs, mais la piété, elle est de cœur. Je suis attaché au Seigneur, Dieu reprocha à son père, « Vous m'honorez du bout des lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. » L'Ecclésiaste dira ceci, « Avant d'ouvrir la voie, de faire monter ta voix, écoute pour entendre, n'offre pas le culte des insensés. » La nécessité d'avoir un culte véritable dans notre cœur, un cœur à cœur au Seigneur. J'aimerais terminer en disant ceci, l'obéissance pourquoi ? Je comprends que dans l'Ancien Testament, le peuple avait tout intérêt à obéir. Vous voyez, le principe de l'Ancien Testament, c'est « fais ceci et tu vivras ». Voyez, mais si tu ne le faisais pas, gare à toi. Alors il est évident, et je peux le comprendre, puis après tout, ce n'est pas un mal, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais parfois une correction, ça fait circuler le sang. Non ? Des fois, un petit... hein ? Un peu, un petit pic dans la chair, oui. Aïe, ça fait sauter en l'air, hein, je vous le dis, hein. Pour vous détendre. Quand j'étais petit, on est 11 frères et sœurs, et quand on était petit, on se faisait des coups par derrière. Et un jour, j'étais assis sur une chaise, et un de mes frères est venu, il m'a planté une aiguille dans le fessier, j'ai sauté, hein. Quelquefois, Dieu dans sa bonté, pour nous enseigner comment nous devons fonctionner, comment nous devons marcher, parfois Dieu permet qu'on se prenne un petit coup d'aiguille. Voyez, un peu, excusez-moi l'expression, mais comme cette pointe pour faire avancer la bête. La bête de Somme, voyez, tac, pour la faire avancer. Et deux fois, il est bon que le Seigneur nous reprenne pour que nous apprenions la sagesse. Mais la Bible dit en effet que si nous obéissons aux autorités, c'est pas parce qu'on a peur des autorités, simplement. Mais nous l'avons lu tout à l'heure, mais aussi par conscience, à cause de la conscience. Ah, la conscience. C'est un thème intéressant, la conscience. Quand Paul parle dans 1 Timothée, au chapitre 1, versets 5 à 6, il dit « Le but de cette recommandation... c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sincère. Quelques-uns, malheureusement, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. La volonté de Dieu, dans tous les conseils que Dieu nous donne, de la Genèse à l'Apocalypse, particulièrement dans les Épîtres, en effet, ils sont là pour nous enseigner. Et le but, la recommandation qui nous est donnée, c'est pour que nous ayons un cœur pur, une bonne conscience. Malheureusement, quand on ne prend pas soin de cette conscience que Dieu nous a donnée, elle peut nous jouer des tours. Et à cause de cela, on peut s'égarer, faire naufrage quant à la foi. On peut malheureusement, sous prétexte de se confier dans nos sentiments, dans nos émotions, et plus sur la parole de Dieu, sur l'autorité des Écritures, on peut s'égarer tout en croyant en Jésus. On peut être sincèrement sincère et sincèrement dans l'erreur. On a besoin de l'autorité de la parole de Dieu. Verset 18, la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Vous avez une conscience ? Parce que vous ne me dites pas non, parce que ce n'est pas vrai. Vous en avez tous une ? Je pose la question, mais c'est bête, hein. Dieu nous a créés avec une conscience. Et Dieu sait que la conscience, elle est importante. Quelqu'un la prenait comme image de notre conscience, c'est la boîte noire. Vous savez qu'on cherche quand un avion est tombé en l'eau, et on ne sait pas pourquoi il s'est crashé. Tout de suite, on se met à la recherche de la boîte noire. Pourquoi ? Parce que la boîte noire possède toutes les informations que nous ignorons. Et c'est avec cette boîte noire que nous allons pouvoir savoir le pourquoi du comment l'avion est tombé. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est comme un mouchard. La conscience nous a été donnée, elle est précieuse parce qu'elle recueille toutes les informations. Elle s'inscrit dans notre mémoire, dans notre conscience. Parfois nous, on oublie, mais la conscience enregistre. Et lorsque... nous nous présentons devant Dieu, et lorsque le chrétien, normal, réveillé, sait qu'il a une conscience, il y a bien quelque chose dont il doit prendre soin, non seulement son cœur, plus que toute autre chose, mais sa conscience. Parce que je peux cacher à mon épouse, je peux cacher à mon époux, je peux cacher à mon voisin, à ma voisine, à mon frère, à ma soeur, mais je ne peux pas le cacher à ma conscience, les choses véritables. On dit toujours, dans les histoires, il y a toujours deux témoins. Il y a Dieu, et il y a la conscience. Et on peut faire ce qu'on veut, on peut aller jusqu'aux extrémités de la terre. Votre conscience, elle vous suit. On ne peut pas s'y soustraire, c'est la boîte noire. C'est celle dont quelques-uns, et plus aujourd'hui, on ne veut pas avoir affaire à la conscience. On a peur de la conscience. Elle nous accuse, la conscience. Alors on la fuit, on l'étouffe. Mais malheureusement, quand quelqu'un a étouffé sa conscience, c'est quelqu'un qui s'en va comme une embarcation sans pouvoir la diriger. Il est ballotté à droite, à gauche, malheureusement, sans pouvoir diriger sa propre vie. Cette conscience dont nous avons besoin, elle possède toutes les informations. Notre sagesse, frères et sœurs, ne réside pas dans l'homme, mais nous la trouvons dans la parole de Dieu, dans l'autorité des Écritures. Est-ce que la parole de Dieu est simplement celle qui est sous tes yeux, ou la parole est celle dont tu sers sur ton cœur pour ne pas pécher contre Dieu? Pour les jeunes hommes, vous connaissez tous ce psaume 119, verset 9? Les jeunes, je ne sais pas jusqu'à quel âge. Mon pain, on peut être âgé et jeune. Mais la Bible dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Il continue un peu plus loin et dira, ta parole, elle est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Que Dieu soit glorifié. Je pense encore à ce texte de 1 Jean, chapitre 2, verset 14, où il dit, « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Ma sagesse ne réside pas dans ma capacité de raisonner, car quelquefois mes raisonnements entravent l'action du Saint-Esprit et la parole de Dieu. Et parfois on aurait peut-être l'illusion de croire qu'on est plus sage que Dieu, à tel point qu'on ne prend pas garde à ce qu'il dit. Et on se laisse illusionner. Et on y va quand même. Et encore, dans notre illusion, on dit, Seigneur, étends ta main, bénis-moi. Parle-moi, enseigne-moi. Il me dit, mais moi j'aimerais dire, Dieu pourrait te dire, écoute, tais-toi, arrête de prier, arrête de jeûner, arrête de t'affoler à chercher ma face. Arrête. Ouvre ta Bible et lis la Bible et écoute ce que j'ai à te dire. Croyez pas des fois que c'est comme ça? On fait les choses. On prie Dieu. Et Dieu ne me répond pas. Ben si, il y a longtemps, mais seulement tu ne vas pas l'abandonner là où il faut. La parole de Dieu nous a été donnée, vous ne croyez pas? Est-ce que celle-ci est moins importante que le reste? Est-ce que la parole de Dieu, nous qui sommes arrivés au 21e siècle, nous qui arrivons à la fin des temps, est-ce qu'on aurait moins besoin de la parole de Dieu que nos aînés dans le temps? Mais moi, je crois que le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Il n'y a pas une date de limite de consommation. La parole de Dieu, elle est valable pour hier, aujourd'hui et demain, mais plus que jamais aujourd'hui. Que Dieu nous ramène à la parole. Allez, je termine vraiment avec ça. Moïse est mort, c'était son temps. Le pauvre, il n'est pas rentré dans le pays parce que regardez quand même, ça paraît injuste. Moïse a été l'instrument de Dieu pour conduire le peuple d'Israël dans le désert. Moïse était un homme très patient, croyez pas? Quelle patience la Moïse qu'il a eue avec un peuple contredisant qui murmurait sans cesse. Le pauvre, il n'y peut rien, il n'était que l'instrument de Dieu, mais c'est lui qui prend tout. Dieu dit, moi je vais le frapper le peuple. Ah, tu vas voir, qu'est-ce qu'il fait Moïse? Vas-y Seigneur, mets-leur. Même pas, c'est un intercesseur. Et Moïse va prier, Dieu dit, Seigneur, ne laisse pas ta colère sur ton peuple. Ne fais pas ça, Seigneur. Fais pas ça. Il intercède. Et à maintes reprises, il s'interpose entre la colère de Dieu qui voudrait s'abattre sur le peuple qui murmure. Lui qui a supporté un peuple au cou raide. Un jour, Dieu lui dit quelque chose. Il dit, tu parleras au rocher. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il le frappe. Et Dieu dit, tiens, je vais bien te voir au bureau, toi. j'ai quelque chose à te dire. » Il dit, « Comment ça se fait que tu ne m'as pas sanctifié devant le peuple ? Je t'ai dit de faire quelque chose, tu as fait le contraire. Puis qui t'a dit de donner ton avis ?» Et le pauvre, il dit, « Ben toi, tu ne rentreras pas dans le pays promis. » Ça paraît injuste quand même. Lui qui a supporté tant de choses de la part du peuple, une fois, tac, ben tu verras le peuple, le pays, mais de loin, hein, tu ne rentreras pas. Moïse meurt, il est enterré. C'est Josué qui prend la relève, lui qui était dans l'ombre. Et qu'est-ce que Dieu lui dit ? Josué, fortifie-toi, prends courage. Que cette parole ne s'éloigne point de tes yeux. Serre-la dans ton cœur. Parce que le succès, il est là. Il n'est pas ailleurs. C'est de faire la parole de Dieu celle qui nous guide et qui nous conduit. C'est d'être attentif et d'avoir une oreille sanctifiée pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Et Dieu parle au milieu de nous. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais Dieu parle. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu nous aime. Même quand on est infidèle, il demeure fidèle. Parce que son amour n'a rien à voir avec la pluie et le beau temps. Dieu m'aime toujours. Même quand je fais mal, il dit, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur lorsqu'il te reprend. C'est comme des enfants qu'il vous juge et vous châtie. Si pour un temps nos pères nous châtiaient comme il leur semblait bon et que nous les respections, à plus forte raison, ne devons-nous pas nous soumettre au Père des esprits ? Car s'il nous châtie, et si du moins tu n'acceptes pas ce châtiment, alors vous êtes des enfants illégitimes. Plus exactement, vous êtes des bâtards. Ce qui est écrit dans le texte, notre traduction. Ça fait plus injurieux, ça nous heurte. Il vaut mieux dire illégitime. Oui, mais la Bible dit, c'est « je te reconnais pas pour mon fils ». C'est ça que ça veut dire. Je te reconnais pas. Parce que si tu n'as pas part à ma discipline, comme tous les autres, je ne peux pas te reconnaître. Parce que moi, j'ai des enfants. Quand je fais des enfants, ben, je les discipline. Discipline, c'est normal. C'est pas mal. C'est pour leur bien, pour qu'on participe à sa sainteté. Et combien c'est beau lorsque nos vies sont conduites et dirigées par la parole de Dieu. Voilà notre sagesse. C'est quoi votre force ? C'est la parole. C'est quoi qui vous donne vos choix ? C'est la parole. Vous n'en avez que pour la parole ? Ben oui, c'est comme ça. Je racontais à quelqu'un, je ne sais plus si c'est mon fils, mais un jour il y avait un homme, un chrétien, qui va chez le médecin et il va avec sa Bible. Et il lit la parole. Il est tellement dans l'esprit de la parole qu'il est dedans, quoi. Il a plongé dans la parole. Il baigne dans la parole, dans la salle d'attente. Et il ne peut pas se retenir. Vous savez, c'est comme ça des fois. Quand on est tellement dans la parole, on oublie qu'on est au milieu des gens. Ça vous est jamais arrivé, ça ? Et il lui dit, Alléluia ! Amen ! Alléluia ! Amen ! Et les gens, ils commencent, Alléluia, ils continuent. Il avait oublié qu'il était dans la salle d'attente. Et au bout d'un moment, il dit, mais qu'est-ce que vous avez aujourd'hui ? Ben, c'est quand je lis la Bible, quand je vois Dieu qui me parle, je dis Alléluia. Alors il continue, et exaspéré, il dit, maintenant vous arrêtez. Vous prenez ce livre-là, Géo, et puis vous lisez ça. Bon, lui, il prend Géo, il regarde. Oh, Amen. Alléluia. Mais pourquoi vous dites encore Alléluia ? Ben, il dit, mais parce que quand je vois tout ce que tu as créé. Amen, Alléluia. T'es content ? La parole de Dieu, elle est source de bonheur pour nos vies. Elle nous garde, elle nous protège. Elle nous évite les pièges du malin. Elle est plus sage que nous. Elle est plus sage que toute notre sagesse. Quand Dieu parle, il sait de quoi il parle. Il connaît les tenants et les aboutissants. Notre vie spirituelle, c'est une question de confiance. T'as confiance ou t'as pas confiance ? Si t'as la foi, t'as la foi. Si t'as le doute, c'est parce que t'as la foi. Alors prie Dieu. Que le doute s'en aille, que la foi serre au cou le doute et le touffe et le tue, pour que la foi triomphe. On va se lever encore, on va remercier le Seigneur. Amen. Amen. Combien l'homme est béni, Seigneur, lorsqu'il se confie en toi. Quelle grâce, quel privilège d'être ensemble, d'être au bénéfice de ce peuple nombreux sur la surface de la terre, qui ont compris que quand Dieu parle, il faut prêter une oreille. Seigneur, car ton amour te presse à nous préserver de ce présent monde mauvais dans lequel nous vivons et qui gît sous la puissance du malin. Seigneur, nous sommes tes bienheureux et tes bien-aimés. Nous sommes aimés du Dieu vivant et vrai, de qui viennent toutes choses. Seigneur, oui, merci pour la grâce qui nous est faite de faire partie de ton peuple, d'avoir accès à la parole, de pouvoir la réaliser, la comprendre par le secours de ton Saint-Esprit. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, tu les bénis pour leur progression. Tu nous aides, Seigneur, dans nos faiblesses. Te disons merci, Jésus. Merci, Seigneur, de nous bénir les uns et les autres. Pardonne-nous. Toutes les fois, Seigneur, nous n'avons pas su honorer l'autorité, respecter l'autorité. Seigneur, pardonne-nous nos manquements. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur. Et apprends-nous à aimer ta parole, à la chérir, à la garder, afin qu'elle produise son fruit dans nos vies. Seigneur, les fruits de la vérité, c'est une justice et une sainteté que produit la vérité. Merci Père encore, et à toi, nous rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen.